Vous vous rappelez sans doute de cette affaire qui avait défrayé la chronique l'an dernier. En octobre 2020, les femmes se trouvant à bord de Divol Qatar Airways à l'aéroport de Doha sont forcées de descendre de leur avion et soumises à un examen gynécologique. L'objectif pour les autorités, c'est d'identifier la mère d'un enfant qui a été retrouvé quelques heures plus tôt dans une poubelle de l'aéroport. Un an après cette affaire, ni le gouvernement du Qatar, ni la compagnie aérienne, ni les autorités aéroportuaires n'ont présenté d'excuses à ces femmes pour leur avoir fait subir un examen gynécologique forcé. C'est pour répondre à ce silence que sept de ces femmes ont décidé de lancer une action en justice. Ces femmes, elles sont basées en Australie et l'une d'entre elles est française. Elle vit en Australie depuis un peu plus d'un an. Elle a accepté de revenir avec nous sur cet événement difficile, mais aussi nous expliquer les raisons qui ont motivé ce souhait d'agir en justice. Je vous propose d'écouter tout de suite son témoignage. Bonjour madame et merci déjà de témoigner auprès de nous. Vous avez vécu une expérience assez désagréable fin 2020. Vous êtes en train de voler vers l'Australie et vous transitez par l'aéroport de Doha. Et là, à un moment, vous voyez beaucoup de policiers arriver vers vous et vers, enfin, pas seulement vous, mais enfin toutes les femmes qui sont dans les environs. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Alors en fait, c'était pour être plus précise, dans l'aéroport de Doha, nous étions déjà dans l'avion. Donc j'étais effectivement en transit à l'aéroport de Doha. J'avais volé de Paris le matin, j'avais une escale de 4 heures et je devais ensuite avoir vers 20h30 mon vol de Doha vers Sydney. Nous embarquons, nous attendons, l'avion se prépare pour le départ et puis on nous annonce un premier retard, 20 minutes après un autre retard et les annonces se poursuivent. Et à un moment, l'avion commence à s'éloigner donc de la porte d'embarquement. Et quelques secondes après, il revient exactement à sa position. Donc avec les autres passagers, on se regarde un petit peu en se demandant ce qui se passe. Et puis un moment après, de nouveau une annonce, comme quoi le départ risque d'être retardé d'encore trois quarts d'heure. Ça commençait à être tard le soir, ça faisait déjà, on va dire, un bon 2h30 qu'on attendait. Et je m'endors. Et je suis réveillée à un moment par une annonce au micro. Et j'ai dû louper les tout premiers mots de l'annonce. Ce que j'ai entendu, c'était « les passagers doivent débarquer avec leur passeport ». Donc je me lève de mon siège à moitié endormi, je regarde les autres qui se levaient aussi, on se regardait tous avec un air un petit peu ahuri. Et l'hôtesse me voit commencer à prendre mon bagage cabine et me dit « Non, vous n'en avez pas besoin, vous avez juste besoin de votre passeport ». Et tous les passagers étaient debout, il commençait à régner une certaine confusion. Et c'est là que je vois des hommes armés dans l'avion, des hommes en uniforme, soit bleu marine, soit noir. Je ne suis pas sûre si c'était des policiers, si c'était des gardes de sécurité, en tout cas des hommes armés à bord de l'avion, et qui nous conduisent donc vers le sas d'embarquement et nous ramènent dans la salle d'embarquement.
Ça doit faire peur, ça.
Ça dure quelques secondes, donc finalement, on n'a pas tellement le temps de réaliser ce qui se passe. On sent qu'on est... Il y a un flottement. Il y a un flottement, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a, oui, cette sensation de danger, de quelque chose qui va se passer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je réalise, je devais finir par me réveiller, qu'il n'y a que des femmes qui ont été débarquées. Et j'avais vu, avant de monter dans l'avion, qu'il y avait des gens qui voyageaient en couple. Et dans ces couples, il n'y avait que les femmes présentes avec moi. Et donc, on attend en salle d'embarquement quelques minutes et des policiers, enfin, toujours pareil, ces personnes, policiers ou sécurité avec les uniformes foncés et armés, viennent vers nous, nous mettent en groupe de quatre et nous disent on va vous conduire quelque part, sans nous préciser où. Donc, avec les autres passagers, on s'interroge, on essaye de les interroger, on n'a pas de réponse. Un premier groupe de quatre femmes s'éloigne, on ne sait pas très bien où elles vont. Et quelques minutes après, deux autres policiers reviennent et prennent un second groupe de quatre dont je faisais partie. Ils nous font traverser la salle d'embarquement, passer par un endroit que je n'avais pas remarqué et nous amènent dans un ascenseur qui descend. Et là, dans l'ascenseur, on commençait à s'agiter drôlement avec les trois autres passagères. Donc, on interrogeait sans arrêt les deux policiers qui étaient avec nous. Il y avait un homme et une femme. Et on leur disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dites-nous, mais on veut savoir où est-ce que vous nous conduisez. Vous devez nous dire quelque chose. L'ascenseur est arrivé, donc c'était au niveau du tarmac. Les portes se sont ouvertes, on est sorti, les policiers nous ont arrêtés à quelques mètres de l'ascenseur en nous disant suivez-nous, on va vous expliquer ce qui se passe. Très franchement, moi j'imaginais qu'il y avait une attaque terroriste sur l'aéroport, qu'il se passait quelque chose. Je savais pas très bien pourquoi c'était les femmes qui avaient été débarquées. Je savais pas si c'était dans notre avion qu'il y avait une bombe ou quelque chose. Je comprenais pas très bien, mais moi c'est ce que j'ai imaginé tout de suite. Et donc on marche de quelques mètres entre cet ascenseur dans une espèce de salle où il y avait des vitres avec des portes coulissantes. Et de l'autre côté des portes coulissantes, donc je vois l'avion et je vois des ambulances garées. Et là, le policier mâle s'adresse à nous et nous dit, voilà, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a un nouveau-né qui a été retrouvé dans une poubelle dans les toilettes de l'aéroport. À ce moment-là, moi, j'ai juste imaginé que le nouveau-né avait été retrouvé mort, puisqu'il ne nous a pas précisé. Et donc, on voit ces ambulances. Moi, j'imagine qu'on va certainement être conduite en ambulance dans un hôpital. Et la première chose qui me traverse l'esprit, c'est je veux pas qu'on m'emmène dans un hôpital au Qatar. Pour subir un examen gynécologique, parce qu'en fait, c'est ça, pour voir si on avait donné naissance ou pas. Et donc, la panique nous gagne. Une première femme devant moi, dans mon petit groupe de quatre, passe devant. Elle monte dans l'ambulance. Ça dure environ 5 minutes. Elle redescend. Et elle a le temps de nous parler, de s'arrêter, de nous parler pour nous rassurer, parce qu'elle doit voir qu'on est quand même dans un état émotionnel assez avancé. Et elle nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas invasif. Ils vont juste tâter votre abdomen, regarder, ça va aller, ça va vite, ne vous inquiétez pas. Ça m'a un petit peu rassurée. D'une part, j'ai vu qu'elle n'était pas emmenée loin de l'aéroport, hein, que l'ambulance était restée sur place. Et de deux, que ça n'avait pas duré longtemps. Et de trois, elle avait dit que ce n'était pas invasif. Donc, j'y vais. Enfin, j'y vais. Elle ne m'avait pas trop laissé le choix, hein, puisque le policier nous avait dit, vous montez dans l'ambulance, on vous examine et après, vous pouvez remonter dans l'avion. Sous-entendu, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas remonter dans l'avion. Donc, je monte dans cette ambulance où il y a une femme, donc avec une blouse d'hôpital, un masque. Elle ne se présente pas. Elle ne dit pas si elle est médecin ou infirmière. Elle me demande de m'allonger sur le lit là de l'ambulance et d'ouvrir mon pantalon, de l'ouvrir largement et de remonter mon t-shirt. Elle commence à m'examiner l'abdomen. Elle descend dans la région du bas-ventre. Je n'ai pas eu à enlever mes sous-vêtements. Elle a tâté, mais sans que ça soit invasif. Et elle a passé également ses doigts sous mon soutien-gorge. Ça a dû durer 2, 3 minutes. 2, 3 minutes où on est un peu en apnée. Je ne sais même pas si elle a vraiment si médicalement elle sait ce qu'elle fait. Si elle décide que c'est moi qui suis la mère de cet enfant, qu'est-ce qui va m'arriver dans ce pays? Je suis seule, je voyage seule. S'il arrive quelque chose, qui peut me venir en aide? Donc, en fait, c'est 3 minutes d'examen où vous êtes complètement en apnée à juste attendre qu'elle dise OK, c'est bon et que vous vous rhabillez. Donc, au bout de 2, 3 minutes, effectivement, elle me dit c'est bon, vous pouvez vous rhabiller. Elle ouvre la porte coulissante de l'ambulance. Je descends, je remonte dans l'avion, je retraverse donc toute la cabine. Certaines des passagers qui étaient passés avant moi étaient là. Les autres passagers mâles étaient toujours debout et tout le monde demandait ce qui s'était passé. Donc j'explique que dans l'aéroport, apparemment, un nouveau-né a été trouvé, qu'ils examinaient toutes les femmes pour voir si une de nous était la mère.
À ce moment-là, parce que vous dites ces 3 minutes d'apnée, quand vous remontez dans l'avion, que ça s'est terminé, entre guillemets, vous êtes sous le choc, vous avez conscience de ce qu'on vient de vous faire, vous êtes comment à ce moment-là?
Je ne crois pas que je sois. Je suis certainement sous choc. Je ne suis pas consciente vraiment de l'infamie de l'acte. Je suis soulagée. Soulagée parce que j'ai l'impression que l'avion, c'est le petit territoire sauf dans lequel je vais pouvoir me réinstaller et quitter cet aéroport. J'aurais dû être dès ce moment-là très en colère. Mais en fait, je suis soulagée, bizarrement. Voilà, et donc après, une fois que les autres passagères sont remontées dans les 15-20 minutes, l'avion a eu le feu vert et nous avons décollé. Et pendant toute la durée du vol, qui est longue, vous savez, personne ne s'est parlé pratiquement. Je pense qu'on était tous épuisés parce que c'était tard. On était tous certainement sous choc. Je sais qu'il y a des passagères qui sont remontées, qui pleuraient, qui était dans un état émotionnel très violent. Et c'est en fait en arrivant à Sydney, on a fait toute la procédure pour descendre, il y avait les règles du Covid. Et c'est dans le bus qui nous emmenait vers l'hôtel de quarantaine que nous avons commencé à échanger seulement, donc en gros 15 heures après les faits, quoi.
Plus tard, passé cette période de choc, de sidération, est-ce qu'à un moment, peut-être au-delà de la peur du moment, vous avez fini par ressentir de la colère, à vouloir demander des comptes à l'aéroport, aux autorités du pays? Est-ce que vous avez essayé de les contacter pour obtenir des explications et peut-être aussi des excuses d'ailleurs?
Je ne les ai pas contactés individuellement, mais donc je vous disais que dans le bus, on a commencé à échanger avec les autres passagères. On a créé un groupe WhatsApp pour se tenir informés parce il y avait différentes nationalités dans l'avion. On allait dans différentes régions d'Australie après la quarantaine. Et pendant les 14 jours, on a commencé déjà à parler. Il y en a qui avaient déjà prévenu la police ou leur ambassade. Il y a des passagères. J'ai au moins le souvenir de une, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ont contacté Qatar directement pour aller, quoi, pour expliquer ce qui s'était passé. Et elle a eu juste un email d'accusé de réception de sa demande, qui n'a jamais donné suite. On a contacté la police. La police nous a appelés très régulièrement pendant la quarantaine pour nous demander ce qui s'était passé, avoir notre témoignage, nous proposer une cellule de soutien psychologique.
La police australienne, hein, bien sûr.
La police australienne, oui,
Ouais.
tout à fait.
OK.
Moi, pour répondre à votre question, je suis passée par plusieurs phases. Il y a eu un peu le déni. Non, non, cet incident, je ne vais pas me laisser affecter par ça. Il y a eu un peu la consternation, l'ébahissement, quoi. Comment est-ce qu'une chose pareille est possible? Et puis après, il y a eu de l'agacement quand j'ai vu que ça n'avançait pas. Et depuis quelques mois, c'est une grande colère qui monte et qui, je crois qu'elle n'a pas fini de monter parce que je vois qu'on est plus d'un an après les faits et qu'on est toujours souverainement dédaigné par cette compagnie qui ne nous a pas contactés individuellement, par l'aéroport qui n'a fait aucun retour individuellement pour les passagères.
Et c'est pour ça que cette action a été lancée. J'ai parlé en fait avec votre avocat il y a 2 jours de cela et qui me disait voilà, les revendications, c'est une compensation financière, l'assurance que des choses seront mises en place à l'aéroport de Doha pour que ce genre d'incident n'arrive plus jamais. Mais quelque part, la revendication la plus forte, c'est simplement des excuses sincères et personnelles. Vous aussi, c'est ça que vous attendez en premier, qu'on vous dise on est désolé, on est allé trop loin, ou en tout cas, c'est l'initiative de quelqu'un qui a outrepassé ses pouvoirs.
Oui, tout à fait. Et je crois que si ces excuses sincères et personnelles étaient arrivées dans les premiers jours ou les premières semaines après les faits, l'histoire ne serait pas allée plus loin. Mais le fait qu'ils ne reconnaissent pas ça, qu'ils nous dénigrent tellement ouvertement, ça nous met très en colère. On a l'impression de même pas être des personnes.
Dans l'article qui vous est consacré à l'AFP, il est dit également que vous avez peur de prendre l'avion depuis cette histoire. Pour ceux qui étaient en Australie jusqu'à très récemment, c'était quasiment impossible de sortir du pays. Là, c'est à nouveau possible depuis le début du mois. Et Qatar, enfin Doha, comme les Émirats en général, c'est presque assuré qu'on transite par cette région du monde avant de rentrer en Europe. Est-ce que vous appréhendez ce moment? Est-ce que d'ailleurs vous prévoyez de rentrer en France prochainement, peut-être pour voir vos proches? Ou il y a cette expérience qui reste au fond de la tête et qui vous décourage ou vous dites je vais peut-être repousser encore de quelques mois, ça joue?
Oui, complètement, complètement, parce que comme vous dites, bon, vous, ça faisait 2 ans. Moi, je suis arrivée donc en octobre 2020 en Australie. Donc, ça fait plus d'un an que j'ai pas vu ma famille. Moi, j'ai fait le choix, là, sciemment, de ne pas voyager et voir ma famille en France. Pourtant, j'ai très, très envie de la voir, j'en ai besoin. Mais effectivement, l'idée de transiter par cette région du monde m'est insupportable. J'ai peur. J'ai pourtant voyagé à travers le monde entier seule, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais là, quelque part, j'ai pris conscience que bah, y a des régions du monde où on n'est pas un passager international protégé par une loi internationale. On devient juste une femme qui va être soumise aux lois de ce pays s'il se décide à les utiliser sur vous. Donc ça me fait très peur. Effectivement, vous dites que l'aéroport de Doha, c'est une plaque tournante, oui. Vers la zone Asie-Pacifique. Donc le jour où je vais décider de rentrer en France voir ma famille, il va falloir que je trouve une autre route. Peut-être que je passerai par les États-Unis. Je vais certainement rallonger mon voyage, très certainement, mais je peux vous garantir que je vais tout faire pour ne plus jamais mettre les pieds à l'aéroport de Doha,
Ouais.
ni utiliser Qatar Airways.
Au-delà de cette phobie bien compréhensible de l'avion, enfin c'est pas l'avion en lui-même, mais on se comprend. Vous, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous êtes remise de tout ça? C'est encore avec vous?
Elle reste présente parce qu'elle n'est pas résolue. Comme je vous ai dit plus tôt, j'ai essayé au départ de l'arranger dans le coin. Non, ça s'est pas passé, ça ne m'a pas affecté. Mais je me rends compte depuis un an que oui, ça m'a affecté cette expérience. Je crois qu'il y a plein de choses qui se passent sans que j'y pense. Avant d'intenter cette action en justice avec notre avocat, on a fait d'autres tentatives pour se rapprocher des autorités qatari et on n'a eu aucune réponse. Donc en fait, la question n'est pas réglée. Et tant qu'elle n'est pas réglée, moi, je n'arrive pas encore à passer à autre chose.
Et dernier point par rapport à cette action en justice, si j'ai bien compris, c'est une action en justice civile, enfin, voilà, avec compensation, dommages et intérêts, etc. Est-ce qu'il a été envisagé un moment par vous et les autres femmes qui s'étaient groupées autour de cette action d'intenter une action au pénal? Peut-être, alors je ne suis pas avocat, mais ce que vous décrivez, on pourrait qualifier ça d'agression sexuelle?
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu un procès pénal qui s'est tenu au Qatar et il y a un responsable de l'aéroport qui a été nommé et qui a eu une sentence de 6 mois de prison avec sursis et une petite amende. Donc, il y a une personne à Doha qui a été nommée. Je crois qu'elle a été suspendue. Cette personne a été suspendue de ses fonctions à l'aéroport, mais on ne sait pas son nom. On ne sait pas si c'était vraiment qu'une seule personne qui était responsable. Mais en tout cas, au niveau des victimes, rien n'a été reconnu.
Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire. Je précise également donc que vous et les autres femmes qui êtes impliquées dans cette action, vous avez mis en place une cagnotte en ligne pour vous aider à financer cette action en justice. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour votre intérêt et c'est vrai que c'est important de faire passer le message.
Ben, je vous en prie, merci à vous et c'est courageux de prendre la parole sur une affaire comme ça, dont on imagine sans difficulté qu'elle a été effectivement traumatisante.
Merci.